Bonjour Hélène Frappa.
Bonjour.
On va rester à l'ouverture de votre livre, page 9. Je m'appelle Nerona et je vais vous raconter mon histoire. Et à partir de là, le lecteur n'a plus qu'à s'accrocher parce qu'il a entre les mains une sorte de bombe. Qui est Nerona ?
Alors Nerona, elle n'arrête pas de mentir. Donc quand elle commence en disant « je vais vous raconter mon histoire », ce qui est bien, c'est que le lecteur est embarqué dans ce qu'il pense être un récit très émouvant. Et très vite, puisque dès le chapitre 2, il se rend compte qu'en fait, tout ce qu'elle vient de dire, non seulement est faux, mais le ton même qu'elle avait, très humaniste, etc., celui qu'elle a utilisé pour se faire élire, car Nerona est donc le prince, dictatrice d'un pays imaginaire dont on comprend qu'il est en Europe, mais on ne saura pas lequel, ça pourrait être le nôtre, ça pourrait être un pays voisin. L'idée était justement de s'inspirer d'une dirigeante politique actuelle qui est Giorgia Meloni, tout en faisant une universelle populiste.
Pourquoi est-ce que c'est elle que vous êtes allée chercher ? Pourquoi pas d'autres figures pour aborder ces thèmes-là ? Donald Trump, Vladimir Poutine ou autre ? Pourquoi cette femme-là ?
Cette femme-là, d'abord parce qu'il y a quelques années, la Cassandre en moi a vu en elle son génie politique et a compris que l'Italie étant le pays à l'avant-garde de l'Europe depuis toujours, depuis l'Empire romain, dont mon livre s'inspire évidemment, puisque Nerona, c'est Néron au féminin, eh bien, précisément, si un jour le RN arrive au pouvoir en France, ce sera grâce à Giorgia Meloni. C'est ce qu'on voit déjà. Combien de couvertures de journaux, combien de magazines disent « est-ce que c'est d'elle qu'on doit s'inspirer ?» Donc l'ont compris, la présente d'ailleurs, la présente sous un jour qui n'est absolument pas le jour réel, la manière dont elle gouverne. Bref, elle, vraiment, comme celle avec ses gros yeux méchants qui nous fixaient, en tout cas moi qui me fixais depuis les cauchemars que j'en faisais, allait nous donner notre avenir en fait. Et aussi parce que c'est très intéressant de voir qu'on a un moment politique où on a eu beaucoup papa dictateur, papa fasciste et maman fasciste arrive aussi. On a Alice Weidel en Allemagne, on a toute cette version finalement de la blonde, douce, avec ses vêtements pastels, qui ne cesse de se réclamer du fait qu'elle est mère, d'une sorte d'essence de la féminité comme ce qui va nous protéger, etc. Et qui, à peine arrivée au pouvoir, précisément, va encore plus loin que papa dictateur, puisque Manerona ou la Giorgia, elle est de sexe féminin et de genre patriarcal.
Oui, parce qu'elle se fait appeler directement par décret « Monsieur le Prince ».
Alors moi, j'ai copié, hein. J'ai beaucoup, beaucoup d'imagination, mais cette fois-ci, je dois dire que je me suis un peu restreinte parce que le premier décret de Giorgia Meloni a consisté à se masculiniser, à exiger d'être nommé « Monsieur le Premier », « Monsieur le Premier ministre ». Donc, de ce point de vue, les choses étaient claires dès le départ.
Nerona raconte son histoire, déroule ses idées, sa rhétorique. Elle est d'une férocité sans borne, tout paraît énorme, satirique, mais tout est basé pourtant, je crois, sur des vrais discours de Giorgia Meloni. Votre matériau de base, c'est donc le réel. Et donc le réel est devenu tellement énorme que c'est pas la peine d'aller chercher plus loin ?
Alors elle est immonde, disons-le, elle est déchaînée. Je dois dire que j'ai pris, je ne m'en cacherai pas, du plaisir à aller aussi loin dans un personnage aussi odieux, en même temps qui se déglingue hein, au fur et à mesure, qui devient de plus en plus dingue. Donc il y a un élément satirique qui fait que je riais beaucoup en fait en l'écrivant. Mais c'est quoi le réel pour un écrivain ? Le réel pour un écrivain, c'est le langage. Ce qui se déglingue avant que notre réalité politique, c'est-à-dire les lois qui nous gouvernent, qui font que l'hôpital n'est plus le même qu'avant, qui font que la protection sociale n'est plus la même qu'avant, qui font que nous n'avons plus les mêmes droits comme citoyens qu'avant. Avant ça, il y a le langage. Il y a la manière dont les hommes politiques parlent, il y a ces éléments de langage, ces EDL, et puis peu à peu la manière dont ce langage va investir aussi la sphère journalistique, des médias, dont on voit bien que comme en Italie avec Berlusconi, qui a été un moment crucial dans l'avènement, disons, du fascisme, enfin, dans le maintien même du fascisme au pouvoir, ça a commencé par un groupe immobilier et puis éditorial. En France, c'est la même chose avec le groupe Bolloré, donc tout ça est le miroir, en fait, de ce que nous vivons. Mais commençons par soigner notre langage. En tout cas, repartir de là, ce langage qui est maltraité. Et avec lui, c'est nous qui sommes maltraités.
Mais ce qui est frappant, c'est à quel point, finalement, on s'est habitué à cette torsion du langage. Elle est quasiment acquise. Elle est perdue, la bataille du langage ?
Pour moi, en France, elle commence. Il paraît, un grand historien, Patrick Boucheron, m'a appris que le premier homme politique, le premier Premier ministre en France, qui donne comme directive à son équipe d'appauvrir le langage, de n'utiliser que 400 mots, c'est Laurent Fabius. Pour moi, il y a un avant et un après Sarkozy, le moment où le président de la République ne parle plus avec la dignité qui est censée être celle de sa fonction, tout en exigeant des migrants, enfin de tous ceux qui arrivent, des immigrés, disons, pour avoir la nationalité française, de passer des tests de langue extrêmement difficiles, tout en créant cette abjection du ministère de l'identité nationale. Donc ça commence par la manière dont le langage là est abîmé. Donc oui, c'est passé, moi je l'entends même quand j'allume la radio, je l'entends. Chaque jour, des digues cèdent et elles cèdent par la manière dont on nous parle et dont peu à peu nous-mêmes nous commençons à parler. Et abîmer les mots, c'est abîmer les êtres humains. Il n'y a pas de différence. Un écrivain, c'est quelqu'un qui vit avec les mots comme il vivrait avec ses enfants, une famille, des amis. Certains mots s'entendent bien entre eux, certains mots sont moches quand on les associe. D'autres vont au contraire être beaucoup plus mis en valeur comme deux couleurs, comme un vêtement, etc. Ils ont une existence, ils ont une substance, ils ont un goût. Ils ont... Voilà. Donc ça, c'est les mots, c'est leur matérialité, c'est ce qui fait de nous des êtres humains. Et c'est ça qui est abîmé, avant tout.
En parallèle de Nerona, il y a Julia Roberts dans votre livre qui vient à Rome tourner un film où elle incarne une mère qui a perdu son fils dans la tragédie de l'effondrement du pont Morandi. De quoi il est le symptôme, ce pont, pour vous ?
Alors moi, août 2018, le pont Morandi s'effondre. J'étais en Italie à ce moment-là, mais j'ai été bouleversée. Et j'ai été bouleversée par une femme qui a perdu son fils. Il s'appelait Mirko dans la réalité. Il était éboueur, il avait 19 ans. Il prenait le pont des pauvres en fait, hein, pour traverser comme ça la ville et aller à son travail. Il fait partie des 65 morts dans cet effondrement du pont. Et cette mère, à qui on ne rendra le corps de son fils que 5 jours plus tard, c'est le dernier être humain à être sorti des décombres, refuse de rentrer chez elle. Elle refuse de manger, elle refuse de boire. Elle reste là, plantée devant l'IKEA qui est installée sous ces piliers du pont où a été construit tout un quartier pour les pauvres, pour les exclus de la société capitaliste. Et elle dit « Je ne partirai pas tant que vous ne m'aurez pas rendu le corps de mon fils. » Aussitôt, je vois en elle une Antigone, je vois en elle une héroïne grecque, elle m'obsède, j'ai même essayé de la rencontrer. J'ai essayé même de proposer une émission à l'époque de radio sur elle, et elle est restée dans un coin de ma tête. Alors Julia Roberts, pourquoi ? Sans doute, j'adore Julia Roberts, elle a joué un rôle important dans mon précédent livre sur le gaslighting. Elle incarnait la grande bouche, celle qu'il a ouverte hein, pour dénoncer les scandales du Watergate, Martha Mitchell. C'est Erin Brockovich aussi, un de mes films préférés. Probablement, c'est tout ça qui fait qu'un jour, j'ai rêvé d'elle et qu'elle devient cette star. Enfin, elle ne devient pas, elle est cette star qui vient dans ce pays, dans ces studios de cinéma qui sont assez proches de ceux de Cinecittà. Je m'en suis inspirée, je les ai visités, que le prince va mettre à la disposition d'Hollywood, etc., pour incarner une contre-figure, en fait. Une figure de la tragédie qui vient s'opposer à tous ces éléments de langage et qui est un langage, au contraire, qui est le langage des larmes, qui est le langage du deuil, qui est le langage qui nous touche, qui est le langage humain.
Au final, on rit beaucoup. C'est vraiment extrêmement réjouissant, ce Nerona. Quel est le pouvoir du rire dans tout ça ? Est-ce qu'on a le droit de rire de tout ça, Hélène Frappin ?
Alors, bien sûr, hein, je ne citerai pas des proches qui avaient raison. Ça dépend avec qui on rit. Mais bien sûr, il faut rire. Moi, tant que je travaillais sur les discours de Meloni, je veux dire, c'était plutôt déprimant. Ça me faisait plutôt faire des cauchemars. Jusqu'au moment où j'ai compris la forme de ce livre, qui serait une forme sitcom, une forme très courte, une forme drôle, où le côté ordurier, la vérité du personnage allait surgir très vite, justement pour briser complètement les éléments de langage. En plus, ce qui est bien avec les fachos, c'est qu'ils n'ont aucune limite. Donc, on peut y aller à fond. Et de fait, il y a une dimension drôle. Par ailleurs, ce que j'avais compris en écrivant mon livre précédent sur le gaslighting, c'est que la force inouïe, existentielle, donc politique du rire, c'est qu'elle nous, le rire nous libère de nos peurs. C'est-à-dire une fois que l'héroïne de Gaslight, le film de Cukor, 44, arrive à rire de son bourreau, de ce mari qui ne cesse de lui faire croire qu'elle est folle et peu à peu de la transformer en cadavre, et ben à ce moment-là, dès qu'elle arrive à en rire et à dire « Ok, je suis folle » et à tourner ça en une comédie ravageuse, elle a gagné. C'est-à-dire elle a gagné sa propre émancipation par l'ironie. D'abord, elle a tout compris à la situation parce que le rire est une lampe qui projette, enfin qui éclaire tout. C'est une arme d'élucidation, donc c'est une arme d'émancipation.
Hélène Frappin, vous signez Nerona chez Actes Sud, un roman écrit au lance-flammes sur le discours politique qui tente de nous noyer. En conclusion, je donne cette phrase d'Anne Carson qui termine votre livre. « Parfois, je pense que le langage devrait se couvrir les yeux quand il parle. » Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.